7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines pour se parler chaque jour du nord au sud. Aujourd'hui, la parole est aux femmes qui créent leur entreprise. Partout dans le monde, elles sont encore nettement moins nombreuses que les hommes à créer leur entreprise. Nous allons essayer de comprendre quelles sont leurs difficultés, comment elles appréhendent le monde des affaires et si elles gèrent leurs salariés différemment des hommes. Autant vous dire, mesdames les voisines, que c'est peut-être le moment de faire entendre votre voix si vous avez monté votre entreprise. Comment vous sentez-vous perçue dans votre pays. Racontez-nous aussi ce que vous avez traversé. Et puis, ça sera l'occasion de faire peut-être passer des messages aussi pour les autres voisines. Alors, soyez solidaires. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Les voisins aussi, bien sûr. Vous pouvez participer aux discussions, surtout si vous travaillez dans une entreprise créée et dirigée par une femme. Hein, ça peut être intéressant. Et puis, vous pourrez dialoguer avec trois femmes spécialistes des entreprises et du management qui publient Femmes et Entrepreneurs. C'est possible. Séverine Lelorne qui enseigne le management de l'innovation à Grenoble et puis qui participe à la gestion de micro d'entreprises de microélectronique. Virginie Cupillard qui est également chef d'entreprise et qui accompagne des créateurs et des créatrices d'entreprises. Et nous serons également en ligne au Maroc avec Bouchra Benida Ramouni qui nous parlera des femmes entrepreneurs dans les pays du Maghreb. Mais tout de suite, reportage en France, à la rencontre d'une femme, qui n'a peur de rien, Carmen Coll, chef d'entreprise textile de 64 ans. Elle a gagné son procès face à Chanel après 7 ans passés dans les tribunaux. Et pourtant, rien, absolument rien ne destinait ce bout de femme à devenir la patronne de World Tricot, une entreprise sous-traitante spécialisée dans la maille pour les vêtements de grand luxe. Fille d'un bûcheron italien, à 14 ans, Carmen Coll quitte l'école et part travailler dans une usine de métallurgie pour aider sa famille à mettre du beurre dans les épinards. Alors pour comprendre cette incroyable destinée, notre reporter Alice Milo est partie à la rencontre de cette femme entrepreneur à Lure, en Haute-Saône, dans l'est de la France. Direction la zone industrielle de cette petite ville qui est d'ailleurs souvent plongée dans le brouillard. Carmen Coll lui a ouvert les portes de son immense atelier 2500 m².
Vous avez surjeteuse, machine plate, pour faire les boutonnières, pour faire les points d'arrêt, pour poser les contessures. Alors vous voyez, la matière, elle vit sur la presse. Hein. On sent aussi les odeurs, hein. On sent l'odeur de l'alpaga, si c'est le cachemire, la soie. Ça a une odeur particulière. Vous voyez, ça c'est du mohair. Alors vous voyez, tous les poils réalisés à la main, c'est un échantillon, hein. Mais ça a nécessité 8 jours de travail dessus, vous voyez. C'est ça la création. Et puis vous allez revoir Khadija qui est là et qui fait du remaillage.
Qu'est-ce que c'est que cette drôle de machine ?
Je remaille maille par maille jusqu'à ce que je sors mon modèle. Voilà. Je suis en train de remailler des manches. Après, je vais faire des poches. Aussi pareil, c'est maille à maille. C'est Madame Coll qui m'a appris le métier. Ça fait 19 ans maintenant que je travaille avec elle. Je ne savais rien quand je suis venue. Voilà.
Au départ, j'ai travaillé donc en 81, j'ai été recrutée dans le cadre d'un contrat de plan comme animatrice de quartier. Il y avait des drames, des situations très très difficiles, très lourdes. Des femmes qui avaient l'obligation de trouver un emploi, responsable de leur famille, d'enfants. Pour certaines, elles savaient très peu parler français. Hein. Au départ, je voulais permettre aux femmes d'accéder à un emploi.
Et vous décidez de monter cette entreprise, de créer World Tricot pour offrir un emploi à toutes ces femmes que vous avez rencontrées, c'est ça ?
On a assumé au jour le jour, on peut dire, créer la formation, trouver un local, trouver un nom. Et puis pourquoi le tricot ? Eh bien pour moi, le tricot, c'était une évidence même, puisque au fond de nous-mêmes, on a tous les gestes de tricot. Maman a toujours filé la laine, elle a toujours tissé la laine. Donc c'est quelque chose d'évident pour moi, voilà, c'était instinctif si vous voulez. Mais faire ce que les autres ne font pas, de la belle maille. Voilà, je me suis dit, on va apprendre à tricoter, on va proposer nos réalisations, Et ensuite, j'ai commencé à aller sur Paris. J'avais jamais pris le métro. Nous avons participé à un salon du prêt-à-porter avec des échantillons, déjà des réalisations. Et puis ensuite, j'ai frappé aux portes.
Comment on vous regardait, vous, petite dame qui venait de la Haute-Saône comme ça avec votre valise d'échantillons? Comment vous ont regardé les professionnels quand vous êtes arrivée, que vous avez débarqué dans ce monde-là?
Ça m'a été dit après. Hein. On m'a dit c'était la bécassine. Vous voyez, c'était les bécassines. Bon, il y avait quand même un monde entre nous. Il y avait un fossé. Hein. Il y a des codes et moi, je ne les connaissais pas, ces codes-là. Donc,
comme quoi, par exemple?
Eh bien, j'arrivais dans une maison, hein, chez Dorothée Biss. J'avais une jupe un peu plissée et puis une tunique bleue avec des taches noires. C'était joli pour moi. Elle m'a regardé des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et puis, elle me dit, ça ne m'intéresse pas.
Sans même avoir vu les échantillons.
Sans avoir vu les échantillons. Il faut se conformer à certains codes. J'étais loin d'eux. Et puis finalement, il y a eu tout de suite un bon retour. Parce qu'on a, on avait des belles pièces, hein, très bien réalisées. Depuis le départ, on était très exigeants. J'étais quelqu'un extrêmement exigeant sur la qualité, sur les matières.
Vous réussissez à draguer, on va dire, un certain nombre de clients. Tout va très vite.
Alors, nous avons eu, bien sûr, Dior, Paco Rabanne, Lanvin, Yves Saint Laurent. J'ai travaillé pour toutes les maisons, Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, bien sûr, Hermès, Chanel. Donc, on a travaillé pour toutes les maisons. C'était des temps très, très forts. Les premiers emplois, les saisons, c'est un rythme infernal.
Vous êtes combien à World Tricot au plus fort de la machine?
Eh bien, on était une centaine de personnes en 2000 ans.
Vous êtes devenue, en l'espace de moins de 10 ans, patronne d'une PME, d'une petite et moyenne entreprise, d'une centaine de salariés.
Oui, tout à fait. Et de plus, avec une très bonne rentabilité, j'étais assez fière.
Et puis, ça a été la dégringolade.
Tout se passait bien, il y avait une très belle progression. Donc en mars 2005, c'est là que je me suis rendue à Tokyo pour présenter notre propre marque Angèle Baptiste, que je me suis aperçue que notre échantillon qui avait été retenu au départ et ensuite on nous avait dit qu'il ne les intéressait plus, avait servi à faire une collection de 6 modèles de la maison Chanel.
Clairement, Chanel, vous avez carrément volé votre motif.
C'était incontestable, c'était notre échantillon qui avait servi à faire cette collection de 6 modèles. Mais ça a été vendu dans le monde entier, puisque ces modèles se sont retrouvés dans d'autres villes. C'était une trahison, c'était... On ne peut pas prendre l'échantillon puis le confier à quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Ça, c'est trop grave. Parce que quand vous créez votre échantillon, vous pensez avoir la production derrière.
Vous décidez de porter plainte, vous portez plainte pour quoi? Pour contrefaçon?
Mais pour contrefaçon, et puis... Ça a amené le discrédit sur nous aussi, parce que une telle maison qui arrête de travailler avec un sous-traitant, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi ils ont arrêté? Beaucoup de gens encore posent des questions. Il y a eu quelque chose derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme un climat de suspicion. Donc c'est un discrédit, c'est un déshonneur pour nous.
Donc c'est pas un client que vous avez perdu, vous avez pas juste perdu Chanel.
Toutes les maisons ont fermé les portes. Et voilà, du jour au lendemain, on est devenu des parias, vraiment. C'était une descente aux affaires, c'était incroyable. Il a fallu commencer en 2007 à licencier, faire une demande de sauvegarde. Et en 2010, l'entreprise a été liquidée.
Et le fait de mettre vos employés à la porte, ça a dû être un moment qui a été très douloureux aussi.
C'est un moment de honte. Je me suis sentie vraiment coupable. Là, vous avez combien de pièces encore?
C'est une pièce, mais c'est 5 tailles.
Et là, on va recevoir la matière première, là. Donc il vous reste à faire la graduation de 2 modèles?
Oui, de 2 modèles qui restent. Et après, je vais faire le 2 sacs. Comme ça, j'ai tous mes patronages.
Ici, donc, dans votre immense atelier, donc, en tout, vous avez une dizaine de salariés dans l'entreprise. En fait, avant votre affaire avec Chanel, ici, ça a grouillé de monde.
Oui, on avait, en 2004, nous avions une 50aine de personnes. Ça rentrait, ça sortait, c'était une véritable ruche. Hein, malgré tout, on ressent à nouveau les odeurs de travail. Avant, on ressentait la mort. À un moment donné, en 2010, c'était terrible. En décembre, on a été expulsés, donc exclus de notre atelier. C'était une mesure terrible.
Toutes ces machines qui sont là recouvertes d'un drap blanc pour ne pas prendre la poussière, c'est quand même un peu triste.
Ah, c'est triste, mais c'est plein d'espoir.
Vous avez connu l'entreprise quand il y avait encore 100 personnes, c'est ça?
Oui, exactement. Oui. Je connais l'entreprise depuis presque le début. On avait beaucoup de clients, on travaillait bien, on fait des heures supplémentaires, on n'arrête pas de travailler, quoi. Puis on était heureux, puis ça marchait très très bien, puis voilà.
Et puis tout s'est effondré.
Ah oui, exactement. Oui. Tout s'est effondré. Oui, c'était un coup très très dur pour moi, pour mes collègues. Tout le monde a été licencié, et puis voilà, on s'est trouvé tous en chômage. C'était malheureux.
Pendant 7 années, vous vous êtes battu en justice, vous avez croisé le fer avec Chanel.
Alors, ça a été 7 années très difficiles, mais j'ai voulu tenir bon. J'ai voulu tenir, pas pour un esprit de revanche ou de vengeance, non, simplement que le droit s'applique à tout le monde. Et c'était pour moi de sauver l'honneur.
Mais c'est vraiment David contre Goliath, hein, le combat du pot de fer contre le pot de terre. Pourquoi vous avez persévéré pendant 7 ans?
Je voulais faire reconnaître la création chez le fabricant. Puisque finalement, dans les maisons, aujourd'hui, il n'y a pas de bureau de création. Ce sont des bureaux de style. Et la création, elle est bien faite chez les fabricants. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas compris que j'ai osé revendiquer le droit. On ne revendique pas son droit vis-à-vis des grandes maisons. C'est la règle du jeu. Et j'ai enfreint la règle du jeu. Il n'y a personne qui s'est défendu jusqu'à présent comme ça. 7 ans pour un carré de maille, c'est énorme.
Finalement, après 7 ans, vous obtenez gain de cause.
Eh bien écoutez, le tribunal nous a donné raison. Chanel est condamné à verser 200 000 euros, mais c'est pas nous qui allons les percevoir.
Vous devez de l'argent à droite à gauche et les 200 000 euros vont permettre de rembourser vos dettes.
Voilà, de Wall Tricot.
Mais pas de relancer l'activité.
Ah non, pas du tout. Il est vrai que l'entreprise n'est pas sauvée pour autant, puisqu'on redémarre presque à zéro. 200 000 euros, c'est rien. Mais pour nous, le fait d'avoir eu gain de cause, notre honneur a été sauvé. Ça n'a pas de prix.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Reportage signé Alice Milo, Allure, en Haute-Saône, dans l'Est de la France. Et 4 mois après avoir gagné face à Chanel, l'entreprise World Tricot se remet, vous l'avez compris, difficilement. Aujourd'hui, Carmen Cole a pu réembaucher seulement 10 personnes. Et puis elle relance aussi sa propre marque de vêtements, Angèle Baptiste. Mais la route est encore longue. Séverine Le Loharn et Virginie Cupillard, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Vous publiez toutes les deux un ouvrage collectif, hein, « Femmes et entrepreneurs, c'est possible ». Qu'est-ce que vous pensez de ce portrait de femme entrepreneur dans l'industrie textile? En plus, un secteur où les PME françaises ont d'ailleurs beaucoup souffert ces dernières années. Séverine Le Loharn.
Moi, je pense 3 choses. La dimension qu'exprime cette femme sur les codes vestimentaires, sur « j'ai dû apprendre ceci, j'ai dû apprendre cela », ça me fait vraiment penser à un livre que je suis en train de lire sur la biographie de Françoise Giroud, qui s'appelle « L'histoire d'une femme libre », qui raconte justement cet apprentissage, et puis ça marche bien pour elle. Et elle a fondé l'Express. La deuxième chose que ça m'évoque, c'est effectivement, ça montre la ténacité des femmes. Peut-être plus que des hommes qui se diraient, bah voilà, j'ai eu ça, je revends tous les actifs de l'entreprise et je redémarre et voilà. C'est-à-dire qu'elles seraient tenaces, mais elles sont tenaces dans la même démarche. Donc ça me fait penser par exemple à Chantal Thomas, Virginie tu confirmeras, qui recrée des entreprises après avoir dû, entre guillemets,
célèbre marque de lingerie.
Certes, qui a dû lâcher sa marque. Ça me fait penser aussi, pour continuer dans la lingerie, à une très belle histoire qui vient juste de redémarrer sur les soutiens-gorge Le Jabi. Le Jabi qui est démantelé, repris par des femmes salariées de l'entreprise, qui lancent une mission sur Facebook en disant « aidez-nous, souscrivez à la reprise de l'entreprise » et qui refait redémarrer depuis janvier dernier 2 ateliers Le Jabi. Mmh. Ça, je trouve ça très beau.
Virginie Cupillard, vous êtes en duplex avec nous, vous êtes à Grenoble.
Oui, alors moi ce que je retiens beaucoup de cette femme et de son parcours, c'est vraiment l'envie qui l'anime. Et c'est vrai que si on parlait psy, on dirait qu'elle fait partie sans doute des personnalités désirantes, c'est-à-dire de gens qui sont animés par une espèce de force intérieure qui leur permet d'aller de l'avant. Parce que finalement son projet à l'origine, il y a quand même quelque chose qui va presque au-delà de la simple création d'entreprise. Il y a tout le parcours d'insertion, voire de réinsertion qu'elle a mis en place avec toutes ces femmes. Et c'est probablement cette double approche qui lui a aussi donné sans doute cette force pour aller jusqu'au bout de ces 7 ans de procès qui ont dû être particulièrement difficiles. Et puis cet espoir toujours présent puisqu'elle continue. Elle continue et ça, je trouve que c'est le signe aussi que finalement l'espoir, il est toujours là. Alors qu'il faut le garder.
Nous sommes également en ligne au Maroc avec Bouchra Benida Ramouni. Bonjour.
Bonjour.
Bouchra Benida, vous êtes également co-auteur du livre Femmes et entrepreneurs, c'est possible. Et vous enseignez, alors vous de votre côté, à l'école de management de Casablanca. Et vous êtes très présente dans les associations de femmes entrepreneurs. Vous formez aussi des femmes entrepreneurs. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en étant au Maroc, de ce parcours, de cette histoire?
Ben écoutez, je pense que cette la décision du tribunal, elle a ponctué un bras de fer qui a duré cette année. Et donc, moi, je dis bravo à cette femme pour sa ténacité. Mais je pense aussi que cette histoire, elle remet sur la table la question de la propriété intellectuelle des fabricants. Et aussi, d'un autre côté, peut-être qu'il faudra penser à une charte de bonne conduite et de bonne pratique, notamment dans un pays comme le Maroc et dans des pays comme dans des pays du Maghreb et du Middle East and North Africa. Donc, voilà. Grosso modo, si ça arrive dans un état de droit comme la France, qu'est-ce que ça pourrait être dans certains pays d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, où vraiment il est question de copinage, de réseautage. Donc, voilà.
Ouais, ouais. Alors, les femmes qui ont créé leur entreprise au Maroc sont souvent bien en vue dans les médias, mais finalement, ça correspond à quelle réalité, Bouchra?
Ben écoutez, souvent quand on parle, surtout je vais parler de la région Maghreb MENA, c'est une proportion qui varie entre 10 et 15%, mais on dit que ça, si vous voulez, ça masque la réalité en quelque sorte, parce que quand on parle ces femmes, c'est souvent des entreprises, grandes moyennes entreprises, mais il faut pas oublier aussi que il y a le poids de l'informel aussi. Il y a beaucoup de femmes qui créent leur entreprise chez elles ou bien de petites entreprises et qui marchent et qui fonctionnent très bien, ça d'un côté. Mais d'un autre côté, nous avons des femmes qui ont créé leur entreprise. Certaines ont bataillé pour atteindre la situation ou leur situation actuelle. Par contre, pour d'autres, les choses étaient beaucoup plus faciles, si on veut dire.
Vous voulez dire que ça dépend du milieu d'où l'on vient, du réseau dont on dispose, du réseau social dont on dispose. Virginie Cupillard, pour créer son entreprise, il faut quand même de l'audace, il faut aimer la prise de risque. Est-ce que c'est le résultat d'une éducation, selon vous, reçue dans l'enfance?
Alors moi, ce que j'ai constaté chez les femmes que j'ai pu rencontrer ou accompagner, c'est qu'en tout cas, il y avait dans leur histoire personnelle, il y avait eu des permissions de donner. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'elles ont eu soit des papas qui les ont absolument élevées comme ils auraient élevé leurs garçons, donc avec exactement les mêmes permissions et sans restriction aucune, et qui les ont poussées. Et pour d'autres, elles ont eu des mères qui étaient, allez, je vais pas utiliser le mot féministe, mais en tout cas, qui pensaient sincèrement que les femmes avaient les mêmes chances et les mêmes droits, et qui du coup les ont vraiment encouragées dans leur création d'entreprise. Et d'ailleurs, elles le disent très, très fortement, donc je crois que ça, c'est quelque chose qui revient, oui, dans leur histoire.
Et ça, quels que soient les pays, Séverine Leloire?
Oui et non. Oui et non, dans le sens où dans les pays, notamment d'Europe de l'Est, c'est naturel pour une femme de créer son entreprise, comme c'est naturel pour un homme de créer son entreprise. Pourquoi? Parce que globalement, pendant 80 ans de socialisme, de communisme, il a été logique pour une femme de travailler au même titre qu'un homme, et l'homme est l'égal ou était l'égal d'une femme, et inversement. En France, je rejoins totalement le propos de Virginie, on observe quand même des logiques lorsque la fille crée son entreprise, y compris maintenant. Je pense à des étudiantes qui sont chez nous dans notre incubateur à Grenoble École de Management. Les étudiantes sont issues de familles qui ont créé leur entreprise. Et il y a toujours la figure du père et l'admiration par rapport au père et une maman qui était là.
Vous restez avec nous, hein, Séverine Leloire, Virginie Cupillard et puis Bouchra Benida Ramouni. Les femmes qui créent leur entreprise, quelles difficultés, quelles réussites. On sera donc toujours en ligne avec vous au Maroc, hein, Bouchra. Et puis quant à vous, les voisines, à vous de nous appeler aussi pour nous faire partager vos expériences dans les affaires. Je sais que vous voulez souvent rester discrète pour parler de vos réussites, mais ça serait dommage. Évidemment, vous serez anonyme. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Le Flash.